Kinshasa accueille du 26 au 30 août au Théâtre de Verdure la troisième édition du Festival International d'Humour Toseka. Une trentaine d'artistes venus de 12 pays d'Afrique et d'Europe, Michel Gohou, Adama Daiko, Agalawal, Cody Kim, Jean-Goubal Kalala et bien d'autres encore. Au menu, des spectacles de stand-up, des performances, des barbecues ainsi que des concerts de musique. Le Festival Toseka 3 est un événement de la plateforme culturelle Watu Balabala en collaboration avec Radio Kapi. C'est un rendez-vous du rire à ne pas manquer du 26 au 30 août au Théâtre de Verdure.
Bien aimé dans les rires.
Ce communiqué vient de vous faire rire, vient de vous faire pisser les rires.
Merci d'être à l'écoute du magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Aujourd'hui, nous parlons du cinquième engagement national, l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous avez promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances, constitue le cinquième engagement national auquel a souscrit la RDC dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Quel bilan faire à ces jours sur la promotion de la réforme, quel bilan faire, n'est-ce pas, à propos concernant la promotion de la réforme structurelle des institutions de l'État depuis la signature de cet accord cadre au mois de février 2013 à Addis Abeba par 11 pays de la sous-région des Grands Lacs sous l'égide des Nations Unies. On en parle aujourd'hui avec Patrick Mutombo-Kambila. Il est conseiller principal au mécanisme national des suivis, comité exécutif. Encore une fois, bonjour.
Bonjour,
Patrick. Alors, dites-nous, quel bilan peut-on faire aujourd'hui concernant le cinquième engagement national?
Merci pour l'occasion que vous nous donnez de vulgariser l'accord cadre, parce que nous estimons que cette activité participe de la vulgarisation tant attendue pour que l'accord cadre ne demeure pas, la mise en œuvre de l'accord cadre ne demeure pas qu'une activité de bureau, mais qui doit être quelque chose dont la population devrait s'approprier. Donc merci Radio Capi pour cette occasion que vous nous donnez et pour toutes les émissions que vous avez tenues avec notre directeur de cabinet Gérard Toumba avant et notre conseiller en communication John Gomboa. Et c'est mon tour. Et je crois que
voilà.
Je pense. Après ces remerciements, vous rappelez que l'accord cadre est devenu cet agenda de la République. L'accord cadre est devenu, et il faut le savoir, un instrument qui participe de la pacification, de la sécurisation de la région des Grands Lacs. Et là-dedans, après les trois niveaux d'engagement, les engagements nationaux auxquels l'RDC a souscrit, il y a ce dont nous parlons aujourd'hui,
oui.
À savoir la réforme structurelle des institutions de l'État. Qu'est-ce à dire? Il s'agit pour la République démocratique du Congo de s'engager dans une vaste opération de redevenir un État normal. On ne peut pas redevenir un État normal sans réformer ses structures.
Mm-hmm.
Et là-dedans, il vous souviendra que, après que nous ayons adopté les critères de suivi de la matrice, pour justement assurer le suivi de l'accord, il y a des critères que nous nous étions fixés. Il y a notamment, par rapport à cet engagement numéro 5, l'opérationnalisation d'abord du mécanisme national de suivi lui-même. C'est une structure de suivi qu'on devait rendre opérationnelle et renforcer davantage pour assurer le reste. Il y a le parachèvement des réformes institutionnelles prévues dans la Constitution. Il y a le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il y a aussi l'évolution et la rationalisation des missions de pouvoir de l'exécutif, sans oublier l'adaptation de l'administration publique aux exigences modernes de l'efficacité. Ça, ce sont des critères que nous avons élaborés de manière consensuelle avec la société civile, avec tous les partenaires extérieurs qui nous accompagnent dans la mise en œuvre. Et c'est à partir de ces critères que la République démocratique du Congo essaye de montrer à la face du monde qu'elle est en train, effectivement, d'honorer ses engagements souscrits au terme de cet accord.
Alors, par rapport à l'administration publique, par exemple, quelles sont les réformes qui sont déjà enregistrées aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui?
Oui, d'abord, au niveau de la réforme publique, au niveau de l'administration publique, voulais-je dire, il ne faut pas perdre de vue que dans ces critères de l'adaptation de l'administration publique aux exigences modernes de l'efficacité, il y a des dispositions qui sont prises pour la redéfinition des cadres légaux de l'administration de l'État en termes de missions et programmes assortis d'objectifs de performance mesurables à l'aide d'indicateurs, donc qui prévoient l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et il y a par exemple la Cour constitutionnelle qui participe aujourd'hui de la réforme structurelle dans les secteurs de la justice. C'est l'administration publique.
Elle a été déjà mise en place.
Elle a été mise en place, elle a été créée, et il vous souviendra que neuf de ses membres ont été nommés et ont prêté serment le 4 avril 2015. À côté de cette réforme dans le secteur de l'administration de la justice, il y a le Conseil économique et social qui a vu ses membres être nommés par ordonnance présidentielle et qui ont été investis le 16 décembre 2014. Et je vous informe...
Et le conseil économique s'occupe... Quelle est sa mission?
La mission du conseil économique, c'est d'assurer, de promouvoir un régime général de la sécurité sociale. Et pour ça, je vous informe même qu'il y a aujourd'hui une session extraordinaire qui doit se tenir pour statuer sur cette loi fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Et son bureau est déjà définitif, est mis sur pied, et il reste maintenant à développer les phases suivantes. Par rapport à la fonction publique, il vous souviendra qu'à l'aune de la décentralisation, il y a des administrations provinciales qui doivent être mis sur pied, et nous parlons de la mise sur pied des fonctions publiques provinciales qui est en cours, tandis que la réforme des entreprises publiques, elle se poursuit aussi, avec notamment le désengagement de l'État et l'ouverture du capital au privé. Donc, par rapport aux réformes institutionnelles, il faut étendre le champ, voir quelles sont les structures de la du domaine de la fonction publique, sur les structures qui évoluent dans les domaines des entreprises publiques, ainsi que celui du Conseil économique et social et de la Cour constitutionnelle, qui sont jusqu'à ce jour les grandes structures qui accompagnent la République démocratique du Congo dans sa quête de redevenir un État normal.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la fonction publique, on sait qu'il y a le personnel vieilli, puis le matériel de travail, est-ce qu'on peut parler d'une réforme aujourd'hui au niveau de la fonction publique?
C'est même une des vieilles réformes. Il faut dire que l'accord cadre n'a pas amené les réformes. Il y a des réformes qui existent depuis longtemps et nous essayons de les canaliser et de les intégrer dans notre champ d'action. Donc, déjà avant, il y avait cet impératif de la maîtrise des effectifs du personnel qui n'est pas une mince affaire et que ce qui est une activité qui a commencé et qui se poursuit au niveau de l'administration publique. Il vous souviendra que tous les ministres qui se sont succédés au niveau du bâtiment administratif de la fonction publique n'ont pour cheval de bataille que la réforme de l'administration publique parce que c'est la cheville ouvrière du développement de notre administration, par laquelle devra passer aussi notre développement et par laquelle devra aussi passer notre efficacité comme État.
Voilà, d'ailleurs, on a appris qu'il y a même une école d'administration qui fonctionne maintenant.
L'école nationale
recrute des jeunes gens qui sont en train d'être formés.
Absolument, absolument. Et ces jeunes gens ont été recrutés dans la règle de l'art, selon la règle de l'art, et ça augure des lendemains meilleurs.
Voilà, donc si on doit établir un bilan aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire que la réforme de l'administration, la réforme structurelle des institutions de l'État a été réalisée à 100% ou il y a encore beaucoup de choses à faire?
Non, il y a encore du chemin parce que, regardez, quand on pense même qu'il faut avoir une politique de service public basée sur des principes de continuité, d'égalité d'accès, d'adaptabilité, d'universalité, il va sans dire qu'il y a même des dispositions qui portent le développement des délégations des services publics ou de leur privatisation. C'est déjà un vaste chantier. Et on ne peut pas penser qu'on a fini en un jour ou en deux. C'est quelque chose qui va continuellement. Il vous souviendra même que des grandes nations, comme la Belgique ou la France, quand ils ont mis leur administration publique en place, avant même que nous ne soyons des États, ce sont des pays qui continuent à réformer leur administration, à développer, à les propulser pour l'adapter aux besoins de la nation dans son historicité.
Mais on a vu, par exemple, à une période en Belgique, il n'y avait pas de gouvernement, mais le pays continue à fonctionner, parce qu'il y a une forte administration.
Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire au Congo, s'il n'y a pas un gouvernement aujourd'hui, le pays va tourner, les choses vont fonctionner correctement avec notre administration actuelle?
C'est un challenge, c'est un défi auquel tout le monde est appelé. Et si jamais la réforme de la fonction publique ou de l'administration publique comme réforme structurelle a été intégrée dans les engagements au terme desquels la RDC a souscrit dans l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est que c'était déjà là un appel à redevenir un État normal par la consolidation de son administration publique. Et c'est un challenge, comme je le dis.
C'est un challenge. Est-ce qu'aujourd'hui, les effectifs sont déjà maîtrisés au niveau de la fonction publique?
Je ne sais pas répondre à cette question. Il y a quelqu'un qui peut répondre mieux à cette question, c'est le ministre de la fonction publique. Mais
vous devez avoir quand même une idée, parce qu'aujourd'hui, on parle de la réforme structurelle des institutions de l'État. Vous devez sûrement avoir une idée là-dessus.
Sur les effectifs.
Voilà, la fonction publique, on a déjà la maîtrise des effectifs aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que la réforme est déjà en marche?
Non, il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises pour avoir justement la maîtrise des effectifs. Moi-même qui vous parle, je suis fonctionnaire de l'État et j'ai subi beaucoup de contrôles. Je participe de beaucoup de contrôles. N'est-ce pas? Il y a des contrôles qui avaient été faits jadis à l'époque au niveau du GB. Il y a des contrôles qui ont été faits avec beaucoup de partenaires. Et au jour d'aujourd'hui, il y a trop d'avancées, et des avancées significatives dans ce défi de la maîtrise des effectifs de l'État. Je vous ai dit au départ qu'il faudrait aussi intégrer cette donne de la décentralisation, des nouvelles administrations publiques par rapport à nos nouvelles provinces. C'est déjà un challenge. Et cette mise en place des fonctions publiques provinciales qui est en cours, et qu'on peut perçu aujourd'hui comme la cheville ouvrière, comme la chance pour la République démocratique du Congo, avec ses 26 provinces, de demeurer un pays qui doit être administré. C'est même ça même, c'est cela même qu'il faut percevoir, la quintessence de la décentralisation pour rapprocher l'administré de l'administration et obtenir des résultats positifs en termes de gestion de l'espace et du territoire national.
Bien. Nous avons déjà deux auditeurs en ligne qui vous suivent et qui veulent poser des questions.
Je vous en prie.
Gentil Kitoko nous appelle de Kinshasa. Et Gentil Lumano de Kananga. Vous êtes intéressé, vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-63-94.
Découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Que dit l'accord cadre d'Addis Abeba sur la promotion de la réforme structurelle des institutions de l'État? Gentil Kitoko, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour. Et bonjour également.
Oui, quelle est votre question?
Oui, dans ce que l'invité nous dit, il souligne beaucoup plus le fait que la promotion de la réforme structurelle des institutions de l'État pas en sens, mais dans la plupart des cas, on est avec un marché, il y a des institutions qui, jusqu'à, ne sont pas en place. Mais, par exemple, la réforme sanitaire, on est qu'il y a vraiment des difficultés qu'on rencontre, surtout pour les systèmes médicaux, des patients et des gens. Alors, outre cela, on estime aussi qu'il y a aussi un côté positif par rapport à ce qu'il a dit. Alors, je voudrais qu'il nous dise qu'est-ce que le gouvernement doit faire en vue de perfection de cette peut-être la forme générale des institutions ou de l'État.
D'accord. Bien que vous sortez entrecoupé, on a quand même saisi. Vous parlez beaucoup plus de la réforme au niveau de la santé. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la santé? Parce que l'accès aux soins médicaux demeure un problème. Bien, l'invité va répondre tout à l'heure. Le temps d'accueillir aussi gentil des Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, c'est à notre invité du jour.
Oui, quelle est votre question?
Oui, monsieur le journaliste. Je suis bien à l'introduction là de notre invité. Il a parlé de cette dérange des pays qui ont signé la dictature. Alors, dans l'Afrique, si nous avons plusieurs pays, pourquoi ma question est la suivante. Quelles sont les préoccupations posées à notre invité? Quand il a parlé de 11 pays qui ont signé l'accord d'Addis Abeba, mais pourquoi les autres ici n'ont pas participé dans cet accord-là? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quel est le but principal de l'accord global d'Addis Abeba? Merci, c'est gentil, le Manouakana.
Voilà. Quel est le but de l'accord cadre d'Addis Abeba? Et il veut savoir pourquoi les autres pays, on a parlé des 11 pays signataires, pourquoi les autres, à son avis, n'y participent pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Oui, gentil, bonjour et merci pour votre question. Je voudrais commencer par la question de
Gentil. De Kinshasa.
Gentil de Kananga.
Il y a Gentil et Gentil. Voilà, Gentil de Kinshasa lui parle de la réforme au niveau de la santé. Oui, il dit qu'il n'y a pas de, il y a pas tellement de changements.
Il va y arriver.
L'accès aux soins de santé.
Je vais y arriver. Oui, gentil Loumanou. Je voudrais d'abord préciser une chose, que l'accord cadre avait été signé d'abord par 11 pays et finalement il y en a deux qui se sont ajoutés, c'était le Soudan du Sud et le Kenya. Et ça fait 13 pays qui signent. Et l'accord cadre, son intitulé est déjà trop parlant. Il s'appelle Accord cadre pour la paix, la sécurité, pour la République démocratique du Congo et la région. Donc c'est un accord qui met la RDC comme le pays du corps, donc le champ primaire de l'accord cadre, c'est d'abord notre pays. Et quand c'est de la République démocratique du Congo, je voudrais vous dire qu'il n'est pas facile d'être la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays qui est d'abord né depuis 1885 à la conférence de Berlin comme un pays où le roi Léopold II lui-même a dû négocier avec les autres puissances pour que nous soyons le Congo aujourd'hui. Et entouré par ses 9 voisins, avec tout ce que nous avons connu comme récurrence de la belligérance régionale et qui nous a laissé des tares, l'accord cadre devenait par la même occasion un agenda que nous considérons comme celui de la République et de la région. Il va sans dire que l'intérêt que la RDC accorde à l'accord cadre n'est pas celui qu'accorderaient les pays voisins. Et nous concernant particulièrement, nous estimons que cet accord devrait être compris par nos masses congolaises qui devraient s'en approprier. Parce que quand on vous dit que vous devez consolider votre sécurité, vous devez poursuivre les efforts de la décentralisation, vous devez, aujourd'hui nous parlons de la réforme des institutions, donc ça signifie que, au départ, nous avions un besoin de redevenir, comme nous avons bien le dire, un état normal. Et les autres pays, vous dites, pourquoi les autres... Non, cet accord nous concerne d'abord nous. Les instabilités que nous avons connues sont difficiles à se conjuguer avec les potentialités que nous avons. Nous ne pouvons pas demeurer dans la belligérance récurrente alors que nous avons l'impératif de redevenir un état normal et nous propulser vers les états les plus modernes.
D'accord, avant de poursuivre, je vous interromps un moment, il est temps d'accueillir Maître Guilain Douga de Kinshasa. Maître Guilain, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Hein.
Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je salue d'abord votre invité. Je voulais un peu savoir, parce qu'il est en train de parler de la réforme par rapport aux institutions. Mais apparemment, en faisant l'analyse de tout ce qui se passe, beaucoup plus dans le secteur de la décentralisation, moi, c'est comme qui dirait qu'on y a amené encore davantage le désordre plutôt que réformer les institutions pour l'efficacité. Parce que quand vous prenez l'aspect, par exemple, n'est-ce pas, de nomination à titre intérimaire du gouvernement. Ça n'a aucune base légale sur laquelle ça peut se reposer. En dehors de ça, j'ai jamais cessé de le répéter que les immixtions intempestives, n'est-ce pas, du ministre de l'Intérieur font perdre même la substance, même, n'est-ce pas, des institutions qui, du reste, se sont retrouvées là-bas par élection. On ne voit pas comment est-ce qu'à chaque moment, il peut les interpeller un président de l'Assemblée provinciale au moment où il ne dépend pas de lui. J'ai l'impression que ça entraîne encore beaucoup de désordres, beaucoup plus de, plutôt que réorganiser le secteur. Voilà un peu, à ce stade du débat, la préoccupation que j'ai.
Bien, merci Maître Aguilar. Patrick Moutombo.
Oui, mais il y avait d'abord la préoccupation de Jean-Cy.
D'accord.
Oui, oui. Oui, je voudrais répondre à Jean-Cy que il est vrai qu'il est Jean-Cy s'inquiète par rapport à la réforme de l'administration dans les secteurs de la santé. Oui, la santé n'a pas de prix. La santé, c'est tout ce qui doit normalement nous interpeller, nous tous. Mais je voudrais rappeler à Jean-Cy que la réforme institutionnelle dans le secteur de l'administration publique, c'est un effort que nous faisons tous, et j'ai dit ici que le critère qui soutient cette réforme est d'abord l'adaptation de l'administration publique aux exigences modernes de l'efficacité. Et là-dedans, je voudrais informer aussi que ici, il y a des dispositions que nous sommes en train de prendre pour l'optimisation de la fonction publique de l'État, portant d'abord sur l'harmonisation de son fonctionnement avec le principe, par exemple, de l'autonomie des provinces. La santé ne doit pas être considérée comme un bloc. Il y a, bien sûr, certaines particularités liées à nos provinces.
Dans le secteur de la santé, qu'est-ce qui a été déjà fait? Quelles réformes qu'on a déjà enregistrées là-bas?
Bon, dans le secteur de la santé, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je peux ne peut-être pas avoir beaucoup d'éléments par rapport à la santé parce que c'est un domaine aussi complexe, mais j'ose croire que dans le secteur de la santé, il y a un ensemble de choses qui participent du renforcement de notre pays par rapport à l'attaque ou à la prise en charge de tout ce que nous avons hérité comme structure de santé et beaucoup plus aussi comme fébrilité de notre pays. Il n'y a pas longtemps, par exemple, que nous avons été attaqués, nous avons eu un mal à partir avec Ebola. Vous savez que si jamais nous n'avions pas des structures étatiques qui devaient prendre en charge ça, c'était un tout peu compliqué. Vous savez que même que nous avons eu à former un personnel de santé qui est allé même au-delà des frontières pour attaquer Ebola de l'autre côté. C'est dire que même dans le domaine de la formation de personnel de santé pour nous attaquer à l'ensemble des problèmes de santé que nous avons, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées.
Alors, Maître Guilin revient sur la décentralisation. Il parle de la nomination des gouverneurs à titre intérimaire, ce qui va à l'encontre de la loi. Il dénonce également l'immixtion du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, qui va même jusqu'à à diriger, à mettre la main sur l'Assemblée, les assemblées provinciales.
Oui, je crois que cette question est très 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 importante pour qu'on la traite dans une émission spécialisée. Parce que nous parlons aujourd'hui de la réforme, les réformes institutionnelles. Il vous souviendra que les réformes institutionnelles, ça fait partie d'un engagement, c'est l'engagement numéro 5. Mais la décentralisation, c'est aussi un autre engagement. Voyez-vous, je comprends le souci de Maître Guilin de vouloir tout mettre sur la table, mais j'ose croire que vous avez annoncé que aujourd'hui c'est une mission qui était consacrée à la réforme institutionnelle qui est différente, qui est l'engagement numéro 5 qui est différent de l'engagement numéro 4, je pense, qui parle sur la décentralisation. Donc, je voudrais que Maître Guilin ait tous ses apaisements, que nous pouvons traiter cette question dans une émission tout à fait spécialisée.
Alors, vous dites que la réforme structurelle des institutions de l'État concerne, vous avez dit tout à l'heure, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ça concerne également l'administration publique, la réforme des entreprises, et ça touche également quel domaine?
Non, ça touche aussi le domaine de l'évolution de la rationalisation de missions du pouvoir exécutif.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Ça veut dire qu'il y a normalement des mesures qui nous sommes en train de suivre et qui porte sur l'alignement des attributions des ministères dans la perspective de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre, et aussi les mesures qui portent sur la rationalisation des compétences des ministères, en particulier des ministères liés à l'éducation nationale, à la coopération, à l'économie, au travail et à l'emploi, aux questions sociales, y compris le pourcentage des réductions des directions de l'administration des ministères. Donc c'est vous dire que la rationalisation des missions du pouvoir exécutif participe de la réforme institutionnelle. Et c'est un ensemble d'actions qui sont menées. Mmh. Et en parlant aujourd'hui au micro de Radio Capi, dans le cadre de la vulgarisation de l'accord cadre, on voudrait que notre opinion publique le sache. Que la rationalisation des missions du pouvoir exécutif passe par ce que je viens d'énoncer. Ça passe même par l'harmonisation de l'agenda du Parlement au regard du principe de la conduite de la politique de la nation par le gouvernement. Et sans oublier que la responsabilité des ministères dans la conduite des politiques sectorielles, normalement, passe à la loupe pour être accrue et en matière d'autonomisation budgétaire effective à travers la création de directions administratives et de directions financières au sein de chaque ministère.
Est-ce que cela a été déjà implémenté? On peut
c'est
dire
déjà
que
implémenté, nous oui. y travaillons et nous en assurons le suivi et... Je crois que nous aurons à en parler davantage et à en parler pour que les uns et les autres n'aient pas l'impression qu'il y a des choses qui ne se font pas.
Et par rapport à la réforme des entreprises, aujourd'hui, quelles sont les avancées?
Non, les avancées.
On a noté.
Non, les avancées. Dans la réforme des entreprises, je vous ai parlé du droit au ADA. Par rapport aux entreprises, par rapport aux affaires, le droit, nous sommes passés au droit au ADA. Et que les entreprises connaissent au fur et à mesure le désengagement de l'État et l'ouverture du capital au privé. C'est une chose réelle.
Donc il y a aujourd'hui des entreprises de l'État qui sont devenues des entreprises commerciales.
Avec le désengagement progressif de l'État, avec la réforme, vous savez que sont des choses qui ont commencé depuis très longtemps, du temps même de quand on a mis le COPIREPS, mis en place le COPIREPS déjà à l'époque, le comité de pilotage des réformes des entreprises publiques, et c'est un processus qui a évolué jusqu'il y a peu, je crois que c'était sous le premier ministre Mouzito que les choses étaient encore plus... développer avec cette ouverture au capital et le désengagement de l'État dans les entreprises publiques. C'est chose réelle.
On va accueillir deux auditeurs, on va terminer avec eux. Mathieu Mputu de Kananga et Pierre Toumba de Kinshasa. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, l'invité.
Bonjour.
Moi, je ne suis pas encore sûr de la réforme de notre administration publique suite aux accords d'Addis Abeba.
Oui.
La petite question que je pose à notre invité est de savoir. Nous avons des jeunes intellectuels qui terminent des études, mais qui demeurent sommaires jusqu'à ce jour. Cet accord est pour garder le vieux cadre déjà en âge de retraite au travail. C'est ça la simple question que je pose à notre invité. Merci beaucoup.
Bien. Pierre Toumba de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, mon cher ami.
On vous écoute.
Je tenais à votre invité, mon cher ami, dans l'administration, nous avons les lois internationaux dans notre statut. Ces lois internationaux priment sur les lois nationaux. C'est la Constitution qui les dit. Dans la réforme, dans l'administration, il y a d'abord le nouveau statut qui a été transmis. Au niveau du Sénat, le Sénat a revu toutes les articles. Maintenant, ça se trouve les chambres basses qui doivent encore les revisiter. Jusqu'au moment où nous parlons, les documents, ce travail-là, le président du Parlement, il semble négliger. Au moment où nous parlons, cette réforme qu'on a laissé notre ministre Kibala d'entreprendre, sans tenir compte que dans l'administration, nous avons des écoles qui existaient avant l'ENA. Il y a l'école nationale des finances, il y a l'école de l'informatique du finance, nous avons l'université et tout consort. Ce sont des écoles qui ont appris quand même cette administration-là. nous avons le PNUD qui a fait des séminaires et des séminaires. La direction de la paix, un exemple que je donne, il a été dirigé par M. Toudiko, un Français. Hein. Donc nous sommes, l'administration n'est pas bourrique comme l'autre monsieur là, le ministre Lefranc. Hein. Voilà des circulaires qui viennent de balancer pour le moment. C'est pour chasser tous les anciens fonctionnaires et prendre les nouveaux, ces enfants. Essayez de voir dans quelle administration vous trouverez. On est en train de prier, il y a un seul barème, mais on donne un nouveau barème discret qui est gardé, qu'on remet à ces enfants qui ont fait qu'une année de scolarisation, une année d'études à l'école de l'ENA. Mes chers amis, vous savez qu'à l'école de finance, nous avons fait 3 ans. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, c'est quel, parlez-nous un peu de cette réforme que vous balancez. C'est la politique ou bien c'est, vous devez faire vraiment la réforme administrative.
Eh bien, merci monsieur Pierre Toumba de Kinshasa. Patrick Mutombo, qu'est-ce que vous voulez dire à ces auditeurs?
Oui, je vais revenir à monsieur Toumba. Après, je prends monsieur Mputu, mais je crois que monsieur Toumba a parlé avec son cœur. Et monsieur Mputu qui a posé la question, disons, est-ce que...
Les chômeurs, les jeunes gens terminent les études, mais ils sont au chômage.
Il est vrai que des jeunes gens terminent les études par fournée, et qu'aujourd'hui, moi-même, je me suis toujours posé la question de savoir le taux des diplômés sur le marché, est-ce qu'il rime, est-ce qu'il coïncide avec l'emploi. Je ne suis peut-être pas bien positionné pour parler de la politique de l'emploi, mais je pense que dans les réformes que nous sommes en train, dont nous sommes en train d'assurer le suivi, il y a, par rapport à l'adaptation de l'administration publique aux exigences modernes de l'efficacité, il y a cet impératif de la maîtrise des effectifs, on en a parlé. Il y a la gestion des retraites. Sans oublier que la sécurité sociale des fonctionnaires est aussi un élément qui captive l'attention du gouvernement et surtout le redéploiement des fonctionnaires vers les secteurs prioritaires et la formation continue. Monsieur Toumba a parlé de sa formation
à l'école nationale des finances.
Pour dire,
oui.
Ça rentre dans ce cadre de la formation continue. Mais pour dire des jeunes gens qui terminent aujourd'hui, qui sont censés être reversés dans le monde de l'emploi, tout le monde est d'accord. Et nous pouvons nous reparler en nous regardant dans les yeux que le niveau a tellement baissé qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de prendre quelqu'un parce qu'il vous dit « j'ai terminé ». Aujourd'hui, on commence à vouloir prendre quelqu'un parce qu'on se dit que sa formation ou son diplôme de licence doit coïncider avec la quête de l'efficacité. C'est le marché de l'emploi, il a ses règles et je m'incline devant les règles du marché de l'emploi.
Il a parlé aussi du nouveau statut du fonctionnaire. Jusqu'aujourd'hui, la loi traîne, ça traîne, c'est pas encore adapté au niveau du Sénat. Il a décrit tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a la réforme au niveau de l'administration?
La réforme au niveau de l'administration par rapport au dispositif légal. Donc ça signifie que l'ensemble de l'arsenal juridique qui accompagne l'administration publique, je crois que c'est un ensemble. On a proposé beaucoup de trucs, ça se trouve au niveau du Parlement, du Sénat. Et donc vous comprenez que dans cet exercice de la séparation de pouvoir, quand le gouvernement a déjà proposé quelque chose qui se trouve au niveau du Sénat, Dieu seul sait si ce n'est peut-être pas dans la session de septembre que les choses peuvent être discutées. Mais je crois que des efforts sont en train d'être mis et nous en assurons le suivi. Et nous pensons que l'administration publique demeure une priorité pour le gouvernement. Et il a parlé de la primauté du droit international sur le droit national. L'accord cadre étant un instrument régional, un instrument qui est devenu un agenda de la République. Nous osons croire que pour avoir été inscrit dans les engagements auxquels la RDC a souscrit, la réforme de l'administration et des réformes structurelles répondent d'un besoin permanent, celui de nous permettre d'avoir un pays qui fonctionne normalement. Et je crois que ce ne peut pas être quelque chose qui ne captive pas l'attention des dirigeants de la
République. Alors, pour terminer, Monsieur Patrick Mutombo-Kambila, on peut dire que la réforme de l'administration ou des institutions de l'État est en cours ?
Absolument.
Et qu'il reste encore beaucoup de choses à faire ?
Absolument.
Bien. Merci. On s'arrête là pour aujourd'hui. Patrick Mutombo-Kambila, je rappelle que vous êtes le conseiller principal au mécanisme national et suivi au comité exécutif. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Et bon début de week-end.
Merci.